Bonsoir et bonne année à toutes et à tous. Alors, comme vous l'entendez, j'ai la voix rocailleuse. Enfin, c'est un miracle que je puisse parler quand même. Et donc, on se retrouve pour cette nouvelle année 2020. J'aime bien ce chiffre.
Pas sûr.
2020, ça fait 20-20. C'est CAF, CAF. Donc c'est deux paumes de main. Donc on peut dire deux paumes de main qui sont ouvertes vers le ciel. Je crois dans la tradition chrétienne aussi, il y a des moments où on ouvre la main.
Non, quand on dit notre Père.
Ah oui. Aussi, dans le psaume 145, tu ouvres ta main, tu rassasies. Donc CAF, CAF. Pas Kafka. Mais voilà. Donc on se souhaite le meilleur pour nous et pour notre humanité. Oui. Voilà, je vais faire au maximum. Hein, au maximum. Donc, je vais viser le micro. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de voix. Alors, ce soir, je vais vous parler des rendez-vous d'automne. Ça va comme ça la sonorité? Rendez-vous d'automne. Je me suis dit, pour pas, comme j'ai tendance à faire des digressions, je vais écrire mon texte sur le principe de 150 mots à la minute. Donc ça devrait aller sur trois quarts d'heure, comme ça il y aura un temps pour les questions, les échanges. Alors, bien que nous soyons dans cette période, des rendez-vous d'automne, des fêtes de Tichri, du mois de Tichri. Mais je vais vous présenter en survol, ce qui me paraît aussi important, ces fêtes du mois de Tichri. En préparant, je me suis dit que je vais me concentrer uniquement sur Rosh Hashanah et Kippour. J'aurais pu aussi faire Sukkot, mais je préfère faire Sukkot avec les fêtes de pèlerinage. Et on fera le lien par la suite. Comme déjà le sujet de Rosh Hashanah et Kippour est assez riche dans la tradition, dans la pensée et dans la pratique, ça, je pense qu'au niveau des informations, ça sera suffisant. Donc, je vais parler des sonalités du septième mois, parce que dans la Bible, on parle le septième mois, Chodesh Hashevi'i. Donc, on a surnommé les rendez-vous d'automne selon un livre qui avait été écrit par un rabbin quelques années. Donc, j'aime bien ce titre. En rappelant qu'une fête, en hébreu, Moed, un des termes pour parler de la fête, en tout cas, Moed, veut dire une rencontre et un rendez-vous. Donc il y a des rendez-vous dans l'espace, l'attente de rendez-vous, l'attente de rencontre, Moed Moed, donc le sanctuaire du désert, et aussi il y a des rendez-vous dans le temps, le temple du temps, en quelque sorte, pour reprendre Abraham et Shem, les bâtisseurs du temps. Alors donc je vais essayer de présenter un peu ces fêtes, tant de notre optique du judaïsme, et peut-être aussi du judaïsme libéral. Je vais donc présenter mon propos en trois points. Donc, d'abord, une vision de l'homme. Une vision de l'homme dans le judaïsme. Parce que c'est cette vision qui permet aussi de comprendre le sens de ces fêtes, de ces rendez-vous. Ensuite, je parlerai de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an. Dire le nouvel an de l'humanité, je reviendrai, et Kippour, qu'on appelle un hébreu Yom HaKippourim, le jour des expiations, du pluriel. Donc, d'abord, la vision de l'homme. Alors, la vision de l'homme se construit à partir de l'analyse des textes, la Bible, la Torah. Hein. Dans le récit biblique, l'homme, humain, avec un grand H, donc, est créé au sixième jour de l'œuvre du commencement. Le sixième jour après l'apparition des animaux terrestres. les animaux sont créés aussi, d'après le texte, le sixième jour. Bien qu'on puisse voir ces textes comme des récits fondateurs, voire certains disent des mythes fondateurs, la manière dont le texte est écrit est toujours signifiante pour la foi. En fait, on peut dire que l'histoire et la religion naissent de la lecture et de l'interprétation du texte originel. Donc ici, la Torah en particulier, l'enseignement qui est surnommé le Pentateuque ou les cinq livres de Moïse. Dans ce récit du commencement, le scénario d'écriture est récurrent, même s'il y a quelques petites nuances. À savoir, premièrement, il y a l'énoncé d'un projet introduit par le dire divin, le dire de Dieu, Elohim, c'est un texte éloïste ici. Yomer Elohim, Elohim dit. Donc il y a d'abord l'énoncé d'un projet, d'une volonté, et deuxièmement, la réalisation de ce dire, de ce projet. Et ça pour tous les jours de l'œuvre du commencement. Le modèle le plus simple se traduit dans le jour 1. La Bible ne dit pas premier jour, elle dit jour 1, donc je prends l'expression Yom Echad. L'énoncé du projet est connu. Yehi Or, on traduit que la lumière soit. Il faudrait mieux traduire elle sera lumière. C'est la bonne traduction. D'abord parce qu'il n'y a pas l'article, pas que la lumière soit, parce que ce n'est pas marqué Ha Or, mais Or. Et Yehi, ça veut dire il sera, ou elle sera la lumière. La traduction au subjonctif peut poser problème parce que en hébreu, il n'y a pas de subjonctif. Il y a accompli ou inaccompli. Donc Yehi Or, si on veut traduire notamment, elle sera lumière. Et ensuite la réalisation, Va Yehi Or, donc elle fut lumière, sans l'article non plus. C'est pas Ha Or, mais c'est Or. Donc là, on a le modèle, si vous voulez, de l'énoncé et de la réalisation de l'énoncé. Pratiquement, à chaque étape temporelle, chaque jour, hormis le deuxième jour, et pour la création de l'humain, le Créateur pose un regard positif sur sa réalisation. Et à la fin du sixième jour, il est dit, et Elohim, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, constata tout ce qu'il avait fait, et voici très bien, Tov Meod, bien, très, bien, beaucoup, Tov Meod. Mais le mot Tov apparaît régulièrement, Veine Tov, et c'est bien, et voici bien. À l'analyse, l'exégèse juive met en évidence parfois des décalages entre le dire initial et la réalisation du projet. C'est-à-dire que la méthodologie exégétique, c'est de s'attacher vraiment au terme, au mot, et de remarquer parfois, mais ça, il faudrait faire le travail, c'est pas l'objet en tout cas, de mettre une colonne de ce qui est dit et puis la colonne de ce qui est réalisé, et de voir quelles sont les différences. Du point de vue de l'exégèse juive, c'est signifiant. Des fois, il y a des manquements, des failles, du fait de la nature de la création en tant que création par rapport au créateur. C'est pourquoi beaucoup de commentateurs vaïren, il en fut ainsi, que certains traduisent, il n'en fut qu'ainsi, quasi, c'est quasi. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que Dieu dit et ce qui se réalise, du fait de la créature, pas du créateur. Dire que Dieu ne crée pas un monde idéal, mais un monde à aménager, à réaliser. D'ailleurs, ça apparaît dès le premier jour, si on peut dire, ou l'état du monde, puisque d'abord le monde est tohu-bohu, donc est dans l'obscurité, avant qu'apparaisse la lumière. Aussi les rabbins, on trouve ça dans un commentaire de Rashi, sur Genèse 1.11, Dieu dit que la terre produise arbres, fruits, faisant fruit. Ça veut dire dans la lecture juive, que l'arbre lui-même soit fruit, arbre fruit, et speri, speri. Et la terre donna arbre faisant fruit. C'est-à-dire, l'arbre n'est pas fruit lui-même. Comme s'il y a une résistance de la terre de donner l'arbre au fruit. En ce qui concerne l'humain, le projet divin s'exprime ainsi. Donc, Genèse 1, 26. Faisons Adam, sans l'article. Là, c'est Adam. Alors, des fois, vous verrez, des fois, il y a marqué Adam. Alors, les traductions ne donnent pas toujours. Il faut faire en hébreu. Des fois, c'est marqué Adam, et des fois, c'est marqué Ha-Adam. Donc, le Ha, en hébreu, c'est l'article. L'article défini, le, la, les, en fonction de, du genre, de, du terme, du mot. Donc, ici, faisons homme, ou faisons image, faisons humain, pardon, selon notre image, comme notre ressemblance. Betsalmenu, kidmotenu. Dans notre image, Betsalmenu, ou sur notre image, kidmotenu, comme notre ressemblance. Il y a une différence entre selon notre image et comme notre ressemblance. Et tout ça, bien sûr, ça entraîne de l'exégèse. Donc faisons homme, faisons Adam, Adam, humain, selon notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les vivants qui s'y meuvent. Voilà. Donc ça, c'est l'énoncé. La réalisation, donc au verset 27 suivant, Elohim, Dieu, créa l'Adam, ça veut dire L'apostrophe Adam, donc cette fois-ci à l'article, à son image. Donc le terme ressemblance n'est pas mentionné ici, disparu, occulté. Donc Elohim créa le Adam, c'est-à-dire l'humain, à son image. À l'image d'Elohim, il le créa. Mâle et femelle, masculin et féminin, il les créa. Dieu, Elohim, les bénit en disant « fructifiez et multipliez ». Je préfère traduire « fructifiez » que « croissez », parce que dans le terme « péron », il y a « péri », qui sont l'étymologie de « fruit » qu'on trouve dans « foot ». Voilà, « fruit », « péri », même racine. Donc, fructifiez et multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. C'est presque la même chose, mais on voit qu'il y a des différences. Dans les deux cas, l'humain doit se répandre, sur la totalité de la terre pour dominer les êtres vivants. Le verbe, l'expression rado, ridouille, c'est-à-dire la domination sur toute la terre. Bien sûr, il faudrait comprendre, par ailleurs, la nature de cette domination. On a souvent critiqué la Bible en disant qu'elle était responsable des dégâts écologiques parce qu'il est marqué dans la Bible « dominer la planète » et les conséquences écologiques seraient dues à cette interprétation de la Bible. Il faudrait comprendre, est-ce que le Créateur a demandé de détruire son œuvre et sa planète ? Il semble clair en tout cas que le jardin d'Éden, mentionné au chapitre 2, ne sera qu'un lieu de départ, un espace clos d'apprentissage de la vie, une sorte d'école agricole, si on peut dire, avant l'expansion sur la terre, qui se réalisera, en fait, après l'épisode de la tour de Babel. C'est après Babel que les hommes se répandent sur la terre. Remarquons qu'au niveau du projet, Adam est asexué, Adam, alors que dans la réalisation, il apparaît masculin et féminin, investi du projet de conquête, kavosh, kivouche, hein, en plus de la domination. Donc il y a un ajout, nous sommes en domination et kivouche. Là encore, de quelle nature devrait être cette conquête ? En tout cas, ici apparaît pour la première fois la dimension masculine et féminine qui traduit donc la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. D'ailleurs, dans le Talmud, il y a cette formule « point d'homme sans femme, point de femme sans homme, point de couple sans la présence du Saint béni soit-il, de Dieu. Le jeu de la conquête et de la domination doit en tout cas s'accomplir en harmonie totale entre l'homme et la femme, sans que l'un ne tente de dominer ou de conquérir l'autre. Dans la vision du judaïsme libéral en particulier, ce verset fonde une parité totale entre l'homme et la femme, ce qui fait que les femmes peuvent être rabbins, que les jeunes filles peuvent célébrer leur bat mitzvah, plus que la bar mitzvah, elles peuvent participer à l'office et lire dans la Torah. Donc on s'attache beaucoup dans le judaïsme libéral à ce verset, qu'il y a une parité masculin et féminin, que l'homme c'est masculin et féminin. Dernière remarque, sans épuiser les questions et les significations que les réponses pourraient offrir, l'énoncé s'ouvre par le verbe « faire » à la première personne du pluriel, « naasé », c'est « faisons », nous ferons, parce qu'en hébreu, le futur et l'impératif se construisent de la même manière, mais c'est le verbe « faire », « naasé », »,« naasé », verbe « asso », »,« laasot », »,« faire ». Mais la réalisation du projet divin utilise trois fois le verbe « créer », »,« bara », il crée l'homme, mâle et femelle, il l'a créé, comme on l'a dit tout à l'heure, à trois reprises. Or, ce verbe bara est utilisé deux fois auparavant. En Genèse 1:1, célèbre verset, au commencement, ou dans un commencement, il créa Elohim les cieux et la terre. Et en Genèse 1:21, il créa Elohim. On peut traduire les grands serpents, c'est des bonnes traductions, les taninim, c'est d'ailleurs des grands serpents, les monstres de mer. Voilà. C'est-à-dire, en même temps qu'il crée les animaux de la mer, alors on dit qu'il crée les grands serpents, les grands taninim. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que quand on dit que Dieu crée, si on fait attention au texte, c'est pas tout le temps le verbe créer. Des fois, Dieu dit que les eaux produisent. Et le verbe créer n'apparaît pas, ou bien que la terre produise, ou bien Dieu façonne. Donc en fait, si on veut parler de la création, c'est à trois reprises qu'il y a la création. Au commencement, bon, Dieu crée la terre. Deuxième fois, ces grands animaux marins. Et troisième fois, c'est pour l'homme. Ce verbe bara, pour les hébraïsants, c'est bet resh aleph, bet resh aleph, dont le sujet ne peut être que Dieu seul. Il n'y a jamais de verbe bara avec comme sujet un homme. Donc ce verbe bara dont le sujet ne peut être que Dieu seul, jamais l'homme, parce que selon la Bible, l'homme ne crée pas. Il façonne, il combine, il fait. Le verbe bara suggère étymologiquement la mise en mouvement de l'élan vital qui procède de Dieu. Par la création de l'Adam originel, le Créateur provoque une différenciation entre l'animal qui a été créé avant, le sixième jour, mais avant l'homme, et l'humain. C'est-à-dire que l'humain n'est pas un prolongement de l'animal, mais vaivra, il a créé, okay, mis au mouvement de la vie de Dieu. Revenons à l'énoncé « faisons Adam ». Naasé Adam. Selon le sens littéral, à qui s'adresse ce pluriel? Bien sûr, ça intriguait les rabbins, les commentateurs, ce pluriel, parce que jusqu'à présent, Dieu est tout seul, puis là, on a un pluriel. Rappelons donc le sens littéral, pour prendre le premier niveau de lecture. Rappelons que la lecture littérale, le sens obvi, on appelle en hébreu le pshat, se fonde sur le principe que le texte explique le texte, sans référence à une lecture extérieure, ce qui sera le cas de la lecture dite midrashique. Là, on peut faire appel à des éléments extérieurs pour expliquer le texte, et la littérature midrashique est très, très abondante, comme vous le savez plus ou moins. Mais essayons d'expliquer le texte par le texte. Peut-être parce que les écoles d'écriture, en écrivant les textes, donnaient les clés de compréhension dans le texte lui-même. Le sens littéral laisse entendre que Dieu s'adresse à la terre, qui a déjà fait sortir les animaux. Dieu ne crée pas les animaux, il dit à la terre que la terre fasse sortir. Totsi aaretz, que la terre fasse sortir. Donc le sens littéral laisse entendre, première lecture, que Dieu s'adresse à la terre, qui a déjà fait sortir les animaux, cette terre qui est eretz, ça veut dire l'espace de vie, et non pas adama, et non pas le terreau, qui constituera l'être matériel du Adam. Parce que si, quand on a la traduction « la terre », on ne fait pas les nuances de l'hébreu entre « eretz », espace vital, ça peut être aussi un pays, et « adama », la terre, le terreau, l'humus. Donc, Dieu s'adresse à la terre, mais cette fois-ci, il s'agit de faire l'humain. Donc radicalement différent de l'animal, puisque ce dernier ne porte pas l'image divine, le Tselem Elohim, cette célèbre expression Tselem Elohim, qui fait aussi couler beaucoup d'encre, mais cela est dit pour l'homme, mais il n'est pas dit que les animaux sont créés le Tselem Elohim. Sans expliciter l'expression Tselem Elohim, sa définition se trouverait dans la soustraction mathématique de l'animal à l'homme. Autrement dit, en retirant toute animalité à l'humanité, il restera cette image lumineuse spécifique au visage humain au sens lévinassien, c'est-à-dire la dimension éthique de l'humain, qui a en effet une partie animale, voilà, manger, se reproduire, toutes les fonctions biologiques du vivant, mais Tselem Elohim, ça ajoute au biologique, au psychologique, on pourrait dire la dimension spirituelle, la dimension éthique. Une autre lecture, restant cohérente avec la littéralité, suggère que Dieu s'adresse à Adam lui-même. Ensemble, toi et moi, faisons l'homme. On resterait ici dans cette logique d'un partenariat ou d'une alliance, qui est un thème fondateur, même si le terme n'apparaît pas ici, la notion de bérite, mais c'est l'esprit de la Bible, du prophétisme, qui est que Dieu est en alliance avec l'homme. Donc, nous sommes au niveau de l'énoncé. Faisons. Au niveau du résultat, Dieu ne fait pas l'homme, mais il le crée, avec donc le triplement de ce verbe dans le même verset. En d'autres termes, l'Adam créé, n'est pas fait. Il reste à faire. Il reste à parfaire. C'est pourquoi on ne trouve pas pour Adam la formule « et Dieu constata que c'était bien ». On trouvera « Dieu vit tout ce qu'il avait fait », donc inclut bien sûr l'homme, masculin, féminin, mais pour l'homme, il n'est pas dit « Dieu vit que c'était bien ». Donc, dans la lecture juive, ça veut dire « l'homme n'est pas achevé », parce que Dieu ne dit « bien » que lorsque le travail est achevé. Ça découle aussi du deuxième jour, où il n'est pas dit que Dieu vit que c'était bien, mais le troisième jour, il est répété deux fois, une fois pour la séparation des eaux, une fois pour l'émergence de la terre, donc tant que le travail n'est pas terminé, on ne peut pas dire « c'est voilà ». Vous achetez une maison et puis ils n'ont pas encore mis les portes ou l'électricité, ben vous dites je ne peux pas vous dire que c'est bien, d'accord, j'attends que c'est terminé. Voilà. Et ce parachèvement doit s'accomplir. Hein, le parachèvement, c'est-à-dire l'homme qui se fait, qui continue à se faire, s'accomplit dans le temps du Shabbat de Dieu. En effet, une fois que Dieu a créé l'homme, Dieu fait Shabbat. Le Shabbat traduit l'humilité du Créateur qui retient la toute-puissance de son être pour ne laisser filtrer que ses miséricordes, Rachamim, son attribut matriciel, afin que l'histoire puisse se construire. Histoire avec un grand H, malheureusement parfois avec une grande H, comme disait Georges Perec. Après avoir béni et sanctifié le Shabbat, constitue le sommet de la création, Le troisième verset du chapitre 2 reprend la dialectique créer et faire, comme il est dit, car en lui, le Shabbat, il cessa toute son œuvre, Dieu cessa toute son œuvre, qu'Elohim avait créé pour faire. Asher bara Elohim la'asot, ceux qui connaissent le Kiddush, voici le vendredi soir, Asher bara Elohim la'asot. On trouve ici le verbe bara et le verbe faire. Autrement dit, Dieu crée pour faire. Et la seule fois où le couple créer et faire va de pair, c'est justement pour la création de l'homme. Voici donc l'humain, masculin et féminin, inachevé, mais, j'ajoute un terme, mais responsabilisé dans le monde de Dieu. Cet inachèvement et cette responsabilisation se trouve exprimé par un étonnant midrash, mais tout midrash est étonnant, à propos du verset cité, et Elohim constata tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bien. Veine, tov meod. Et voici, entre parenthèses, c'était tov meod. Bien, très. Meod, ça veut dire très, beaucoup. Jour sur le fait que le mot meod, pour les hébraïsants, même aleph dalet, donc l'adverbe très, et l'anagramme de Adam, Aleph Dalet même, un rabbin dans le Midrash suggère, parce que Meod, c'est les mêmes lettres que Adam, mais dans un autre ordre. Donc un rabbin suggère, étonnamment, Tov, quelle différence entre bien et très bien? Tov, c'est une allusion au bon penchant, le Yetzer. À Tov, le bon penchant, c'est-à-dire l'altruisme. Méod, c'est une allusion au mauvais penchant, c'est-à-dire l'égoïsme. Ce qu'on ramène à soi. C'est-à-dire que l'homme n'est pas achevé parce qu'il va être travaillé, d'après cette lecture traditionnelle, entre sa générosité, sa bonté, son image de Dieu et son égoïsme. Donc Méod, Adam, comme si l'homme était un être excessif. Un être du très, du beaucoup. En quoi consiste cette vocation humaine? La première religion de l'humanité, si on peut dire, consiste à manger de tous les arbres du jardin, mais de ne pas manger un certain arbre nommé arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire jouir de la bénédiction de Dieu et savoir s'auto-limiter dans sa consommation du monde, afin de reconnaître l'altérité de Dieu et conséquemment l'altérité du prochain. Donc, manger, penser à soi et penser à l'autre. On pourrait dire que se dessine en filigrane le verset central de la Torah, Lévitique 18-19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu t'aimes, tu jouis de la bénédiction de Dieu, mais n'oublie pas l'autre. « Je suis l'Éternel. » N'oublions pas la fin du verset, Lévitique 18-19, Ani Adonai, je suis le tétragramme. On pourrait dire que
c'est
19-18, oui. Oui, merci. Les conséquences de la faute ne changeront rien à ce programme. Sauf que la nature sera plus rétive à offrir la bénédiction dans la joie. La vocation humaine, individuellement et collectivement, consiste donc à révéler la volonté divine dans son monde qu'il nous offre en grâce. Et le prophète Michée, 6-8, qui certainement a en tête le récit du commencement, résumera ce programme de vie ainsi. Il t'a raconté homme, on retrouve les termes de la Genèse, homme, Adam, guide les rats Adam, ce qu'est le bien, Tov, comme on trouve ici, Tov, ce que l'Éternel réclame de toi, seulement faire, asot, mishpat, faire le jugement, la justice, aimer la charité, avat resed, et marcher humblement avec l'Éternel ton Dieu. Donc, la justice, l'amour, l'humilité, forme de triptyque de l'éthique monothéiste. Plus l'être humain accomplira cette éthique monothéiste dans son existence, et plus il parachèvera son humanité incomplète tout en révélant Dieu dans son monde. Ainsi s'accomplit le « faisons l'homme », l'homme fait son humanité avec Dieu. Donc devenir homme au sens biblique signifie aussi introduire cette dimension morale, on pourrait dire moraliser l'histoire. Alors parlons de Rosh Hashanah. Cette conception de l'homme, masculin et féminin, inachevé et responsable devant Dieu, permet de comprendre le sens de ce que la tradition juive va nommer le Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. Mais la Torah, le texte fondateur, Pentateuque, nomme uniquement cette solennité, souvenir de sonnerie, Zichron Teruah. Vous avez le texte donc, qui se trouve en Lévitique 23-25, première référence. Donc, dans le chapitre 23 du Lévitique, il y a toutes les solennités bibliques. Il commence par le Shabbat, alors, ensuite il y a le Pessah, les fêtes de pèlerinage, et aussi mentionné ce qu'on va appeler plus tard le Rosh Hashanah et le jour du Kippour. Mais dans le texte biblique, originellement, il n'est pas mentionné Rosh Hashanah. C'est une expression tardive des rabbins, à l'époque du deuxième temple, mais la Torah de Moïse, attribuée à Moïse, ne mentionne pas. Voilà comment le texte présente cette solennité. Donc l'Éternel parla à Moshe, à Moïse, donc c'est un texte yaviste ici, pour dire, les morts pour dire, pour transmettre, parle aux enfants d'Israël pour dire, sur cette récurrence du dire, on voit une oralité qui doit se transmettre, dire Dieu parle à Moïse, Moïse parle aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les parents parlent aux enfants, etc. Donc une oralité de transmission. Dans le septième mois, le mois en hébreu ça se dit Chodesh, même racine que Chadash, ça veut dire nouveau, renouvellement. Le 1 du mois, c'est pas Barishon, mais c'est Behrad, le 1 du mois, ce sera pour vous une grande cessation. Alors pourquoi je traduis une grande cessation? Parce que le mot Shabbaton, Shabbaton, c'est la forme superlative de Shabbat. En hébreu, quand on ajoute on à la fin, katan c'est petit, katon le plus petit. Shabbat, cessation, Shabbaton, on peut traduire une grande cessation, une super cessation. Et aussi, un grand souvenir, Zichron, Zecher, Zichron, On à la fin. Ça veut dire c'est un souvenir très particulier, qui va marquer davantage. Donc le texte dit, le premier jour du septième mois sera pour vous une grande solennité, une grande cessation, cessation de travail, de rupture avec le monde économique, et aussi un zichron, souvenir, de Teruah. Teruah, une sonnerie, et appel de sainteté, Mikra Kodesh. On trouvera ces formules, Mikra Kodesh, régulièrement pour les fêtes. Et donc, toute œuvre de travail, vous ne ferez pas, et vous approcherez un feu, Ishé. C'est juste pour vous donner des indications de lecture juive, que Ishé, c'est comme Isha, c'est une femme, un feu féminin, il existerait un feu masculin-féminin, et vous approcherez un feu à l'Éternel, au tétragramme. Bon. Alors, la Torah nomme les mois, donc Chodesh, renouvellement, parce que c'est le renouvellement de la lune. Et donc, chaque mois est appelé de sa place dans le calendrier. Donc, numéro 1, comme les jours de la semaine, Yom Rishon, Yom Sheni, jour premier, jour deuxième. Le premier mois est celui de la sortie d'Égypte, qui marque la naissance du peuple d'Israël, dans Exode 12, 1. Tiens. Voilà, ce mois sera pour vous le début des mois, de l'année. Donc il faut bien un point zéro pour commencer. Ben, c'est le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Pessah, on y reparlera, on y reviendra. Le troisième mois, par exemple, c'est celui de l'arrivée au désert du Sinaï, dans Exode 19, Barodesh et Shelishi, le troisième mois, ils arrivèrent, etc. Donc, on parle ici du septième mois, donc sept mois par rapport à la sortie d'Égypte. Mais si on parle du mois de Tichri, c'est parce qu'au moment du retour de l'exil de Babylone, les Judéens utiliseront les noms du calendrier assyro-babylonien. Donc le septième mois se nomme Tichri, donc d'après les sources étymologiques, selon l'Akkadien, Tichri-Tou, ça signifie commencement. Donc Tichri, ça serait aussi un commencement, peut-être le commencement de l'automne, donc le mois de Tichri. Le calendrier d'Israël est lunisolaire, comme le calendrier chinois, c'est-à-dire que les mois débutent avec la nouvelle lune, hein, donc en référence à l'année lunaire, 354 jours, mais les fêtes de pèlerinage doivent toujours tomber aux mêmes saisons, donc en référence au calendrier, à l'année solaire, 365 jours et quart. Donc c'est pourquoi il existe des années de 12 mois, des années de 13 mois, pour équilibrer les deux années décalées de 11 jours par an. Selon le livre des Nombres, donc 28, versets 11 à 15, chaque nouveau mois, on appelle aussi Néoménie, commencement du mois, est marqué par un service d'offrande sur l'autel. C'est-à-dire que le nouveau mois n'est pas festif comme une fête de pèlerinage, mais malgré tout, il y avait un sacrifice, enfin, il y avait des offrandes particulières dans le temple pour marquer le nouveau mois. Mais il n'y avait aucune sonnerie. On ne sonnait pas d'un instrument de musique, un instrument avant, dans le temple. La seule exception où on sonne teroua, ça serait justement le premier jour du septième mois, puisque justement, il est dit à propos de cette néoménie particulière, c'est une néoménie comme les autres, c'est-à-dire on voit la nouvelle lune, donc nouveau mois. Mais justement, là, il est mentionné Zichron teroua, souvenir de sonnerie. À la suite de ça, ce jour donc est un jour chômé, comme les jours de fête, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'activité économique. Donc, c'est ça un petit peu l'idée, ne pas travailler, c'est une journée qui est consacrée. Au temps des Hébreux, c'était sans doute différent d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est une journée où vient la synagogue, il y a les offices, il y a l'étude, il y a la prière, etc. Voilà. Donc on prend sa distance par rapport à l'activité économique. Mais qu'est-ce que ça veut dire « zichron teroua » un souvenir de sonnerie. Quand le texte écrit reste énigmatique, donc qu'est-ce que ça signifie? Alors, comme d'habitude, c'est la tradition orale qui essaie de travailler le texte qui explique le texte, pour essayer de voir qu'est-ce que c'est cette évocation des sonneries. Et la tradition orale prend le relais pour parler de la sonnerie du chauffard. Il y a deux sonneries possibles, des trompettes, ratsrotsrot, des trompettes d'argent, ou le chauffard, c'est-à-dire la corne d'un animal, exemple d'un bélier. Une corne de bélier, quand on retire, on nettoie l'intérieur, ça peut devenir un instrument avant, son rauque, pour faire des sons, on ne peut pas faire la gamme, hein. Mais on peut faire boum, tu, 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 donc on peut faire des saccades, et c'est ce qui va marquer les sonneries de Rosh Hashanah. Donc, quel souvenir évoque cette sonnerie? Alors, on peut penser, toujours en restant dans le texte de la Torah, on peut penser à la sonnerie du chauffard qui précède la révélation du décalogue. Donc, Exode 19, ou Exode 20, 15. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y avait Kol chauffard, Oler Vechazek Meod, la voix du chauffard allait en grandissant. Et Dieu parle au milieu du Kol chauffard, la voix du chauffard, le son du chauffard. Donc, dans la chronologie du texte, on va dire que ça fait mémoire du don des 10 paroles, du décalogue. On peut remonter aussi au récit de la ligature d'Isaac, qui fait mention du haïl, du bélier, dont les cornes étaient embrouillées dans un arbuste touffu. Donc Genèse 22, verset 13. Hein, on est Abraham, va pour sacrifier, l'ange retient son bras, il tourne son regard, et voici un bélier était attrapé par ses cornes. Donc ces cornes peuvent renvoyer à ce qui peut devenir un instrument de musique, c'est-à-dire un chauffard, une corde de sonnerie. Donc, selon cette interprétation, ces suggestions, le texte du Lévitique se référerait à deux événements majeurs de la vie du peuple d'Israël. Un, si on suit la chronologie, l'épreuve d'Abraham, donc le premier héros biblique dont le verset témoigne qu'il eut foi en l'Éternel, au tétragramme, donc en Genèse 15, et aussi référence à la grâce de la vie accordée à son fils Isaac, Yitzhak, bien que celui-ci fût prêt à sacrifier sa vie pour Dieu. Mais Dieu, en quelque sorte, a sauvé Isaac. Donc ça, c'est la première référence. Donc, les deux patriarches, fondateurs, et donc Jacob, et la révélation du décalogue qui constitue le fondement de l'éthique monothéiste de la société d'Israël, sur les dix paroles. Même des juifs qui ne sont pas très pratiquants, très orthopraxes, ben, ils prennent quand même comme référence le décalogue. Ils disent, moi, j'essaye de respecter le décalogue. Vous voyez ? Alors, pourquoi uniquement cette néoménie du septième mois appellerait cette sonnerie ? Pourquoi pas tous les premiers du mois, toutes les néoménies ? Et pourquoi pas le troisième ou le huitième ? Il y a 12 mois, donc pourquoi ? Alors, une réponse parmi les 70 réponses, comme on dit. Le septième mois, le mois de Tichri, correspond au Shabbat du décompte calendaire, puisque c'est le septième. Ce chiffre 7 possède une valeur symbolique dans la Torah. Il souligne toujours l'aboutissement d'un travail, d'un cycle économique. Donc, il y a une symbolique des chiffres, il y a même des livres qui sont écrits uniquement sur la symbolique des chiffres, mais le sens le plus simple, c'est que le 7 renvoie toujours à la fin d'un cycle économique. Un travail, Dieu, le Shabbat, septième jour. Par exemple, en plus du Shabbat hebdomadaire, il y a le Shabbat de la terre, tous les 7 ans, dans le chapitre 25 du Lévitique. Voilà. Donc, le septième jour, septième année, est associé à l'idée d'un bilan moral, religieux, spirituel et de retrouvailles avec le Seigneur. C'est-à-dire, on s'investit, puis après, on se retire. Un petit peu à l'image de Dieu, Dieu s'investit et il fait Shabbat. Mais l'homme aussi s'investit et il fait Shabbat lui-même, de son investissement. Ce temps septième donc, est associé donc à cette idée de bilan sur le plan moral, spirituel, et l'économie shabbatique, selon le livre de Raphaël Drey, invite au retour, à la conversion, à un changement de direction. Le mot economicus, qui agit vers l'extérieur de lui-même, pour manger, s'habiller, se loger, pour conquérir, est invité à devenir ou à redevenir l'homo spiritualis devant Dieu par un retournement sur lui-même. Ce retour, cette conversion, se dit en hébreu teshuva, de la racine chouve, revenir, la chouve, revenir. Tout se passe comme si la Torah, par allusion, demandait au peuple d'Israël de faire un arrêt sur image, aujourd'hui on dirait un arrêt sur vidéo, pour quitter le monde des illusions, de l'imaginaire, du travail, peut-être aussi du conflit à cause du travail de l'homme contre l'homme, et retrouver son authentique dimension de créature devant le Créateur, le Adam créé, mais toujours à faire, à parfaire, comme on a dit tout à l'heure. C'est ainsi que le premier Tichri va devenir petit à petit, dans la tradition juive, le jour du jugement. Évidemment, ce n'est pas mentionné dans la Torah, c'est les rabbins qui ont trouvé cette expression, Yom HaDin, le jour du jugement. Mais, à vos souhaits, mais en même temps, ils trouvent cela dans l'interprétation. Vous voyez ? Parce que c'est le septième mois. Non seulement le peuple d'Israël, collectivement et individuellement, est en quelque sorte appelé à un retour vers Dieu, mais la tradition juive, les rabbins, pour dire que c'est l'humanité tout entière, collectivement et individuellement, qui est invitée à ce retour vers Dieu. Ce jour du jugement, donc Yom HaDin, jour du jugement, le Din, c'est, vous connaissez peut-être l'exemple, Bet Din, voilà, tribunal, maison du jugement. Ce jour du jugement deviendra par évolution du langage le Rosh Hashanah, la tête de l'année, bien que, bibliquement parlant, la tête de l'année devrait être le premier Nissan. Mais le premier Nissan n'est pratiquement pas célébré, sauf que c'est un nouvel an, un nouveau mois, tout simplement. Et alors que c'est le mois de la sortie d'Égypte. Il y a donc un glissement qui est fait dans l'histoire, dans les mentalités. Dans les rabbins qui aiment jouer sur les mots et les déconstruire, c'est un jeu rabbinique très apprécié, c'est comme des Legos. Voilà. Enfin, il faut combattre son ego, mais on peut jouer au Lego avec les mots. Voit dans le mot inaugural de Bereshit, pour ceux qui font les mots, je vous ai donné sur la feuille, que Bereshit peut se décomposer, comme l'anagramme, Aleph Betishri. Bereshit, le premier mot, ça peut se lire aussi le Aleph de Tishri, c'est-à-dire le premier Tishri. Ce qui donnerait dans cette lecture, déconstruite, reconstruite, le premier Tishri, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que, en lisant de cette manière, bien sûr c'est un jeu de mots, c'est comme si l'humanité tout entière est invitée à un retour sur elle-même, ce premier Tishri. C'est Dieu qui juge, qui regarde son humanité entière. Cette approche a servi de point de départ à de nombreuses réflexions philosophiques, midrashiques et liturgiques. On pourrait alors imaginer, mais sans doute ce n'est qu'une ferveur populaire, Dieu en juge suprême, avec une robe, tenant devant lui le livre de la vie et de la mort, et inscrivant les individus et les peuples, soit d'un côté, soit de l'autre. Maïmonide, 1138-1204, qui a synthétisé toute la tradition talmudique dans son Mishneh Torah, répétition de la Torah, donc, fait partie des grandes personnalités, comme il existe dans l'Église ou dans l'Islam, des grands penseurs qui un peu récapitulent les pensées antérieures. Donc Maïmonide, c'est un grand talmudiste et un grand philosophe dans la tradition d'Israël, écrit dans son Mishneh Torah, donc c'est une synthèse du Talmud, il dit, voilà, « Bien que la sonnerie mentionnée dans la Torah soit présentée en tant que décret de Dieu, on appelle ça « Gzerat HaMelech », c'est-à-dire Dieu a décrété, il n'y a pas de raison pourquoi sonner le shofar. Des fois, il y a des raisons pourquoi on mange les matzot, le pain azim, parce que les ancêtres hébreux n'ont pas eu le temps de faire le pain, alors on fait du pain sans levain, ou bien on demeure dans une cabane parce que j'ai fait séjourner vos ancêtres dans des cabanes ou dans des tentes pendant la traversée du désert. Mais, en effet, comme on a vu dans le texte, il n'y a aucune raison mentionnée, clairement, de justification de la sonnerie. Donc, bien que la sonnerie mentionnée dans la Torah soit présentée en tant que décret de Dieu, Gzerat HaMelech, pardon, décret du roi, il parle ici de roi, elle évoque une dimension religieuse importante, à savoir, donc, il s'appuie un petit peu sur le livre de Jonas. C'est comme si Dieu disait « Ô endormi, réveillez-vous de votre sommeil. Dormeur, réveillez-vous de votre léthargie. Examinez vos conduites et convertissez-vous. Revenez vers votre Créateur. Vous qui oubliez la vérité de Dieu pour des vanités du monde, qui vous égarez toute l'année dans les futilités, qui n'apportent ni profit ni secours. » Améliorez vos personnes, améliorez vos voies et vos actions, et que chacun abandonne son mauvais chemin et ses mauvaises pensées. En quelque sorte, ce chauffard, d'ailleurs le mot chauffard en hébreu, qui veut dire la corne au bélier, c'est aussi chefer en hébreu, ça veut dire beau, embellir. Donc chefer, c'est aussi embellir ses actions, embellir ses pensées. Autrement dit, le chauffard réveillerait de la torpeur du monde dans lequel nous sommes, qui nous endort par des illusions, par des soucis matériels qui sont moindres par rapport à la véritable vocation humaine qui est de réaliser son humanité devant Dieu. À l'analyse, ce texte qui résume les opinions des rabbins en référence au message des prophètes pourrait, au final, s'appliquer en n'importe quelle circonstance de la vie, en n'importe quel temps et en n'importe quel lieu, et pas seulement le premier jour du septième mois. Le repentir serait-il attaché à un jour particulier ? N'est-ce pas la prise de conscience de la faute qui éveille, ici et maintenant, le désir sincère de revenir vers son Créateur ? Le désir de bien agir selon la volonté divine. Pourquoi attendre le Rosh Hashanah, en quelque sorte, si quelqu'un prend conscience qu'il a une conscience morale et religieuse, qu'il prend conscience qu'il a mal agi, on va dire, bon, j'attends le premier jour du septième mois. Et donc, il y a une question qui est posée ici sur, par rapport à Maïmonide, pourquoi il faut attendre quand même, et même par rapport à la Torah, pourquoi il faudrait attendre ce septième mois, premier jour. Parce que Maïmonide reconnaît par ailleurs que le premier Tichri est aussi le jour du jugement de Dieu, le Yom Hadin de Dieu, dans son attribut de royauté. Alors pour répondre à cette contradiction, il faut nous référer aux deux modalités du service de Dieu, souvent développées dans la littérature rabbinique. Il y a ce qu'on appelle le service de Dieu intéressé et le service de Dieu désintéressé. Le service de Dieu intéressé consiste à servir Dieu pour en tirer un bénéfice personnel. Être en bonne santé, gagner de l'argent, être honoré devant les hommes. C'est-à-dire qu'on cherche finalement un intérêt. Ou bien le service des intéressés, dont la seule motivation est l'accomplissement de la volonté divine par amour, sans autre bénéfice matériel ou psychologique. Et ces deux dimensions se trouvent en permanence entrelacées dans le texte biblique. On voit parfois qu'un texte se réfère à l'amour désintéressé, donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu, hein, et dans le deuxième chapitre 11 du Deutéronome, si vous écoutez ma voix, je vous donnerai la pluie, sinon il n'y a pas de pluie, donc c'est un peu la carotte et le bâton, hein, voilà, donc ça serait un amour intéressé, si je veux qu'il pleuve, donc je vais accomplir la volonté de Dieu, dans le premier paragraphe du schéma, donc tu aimeras Dieu. Même s'il t'arrive des tuiles et des problèmes et des souffrances, comme dans le livre de Job, tu aimes Dieu. Voilà. La Torah, qui reconnaît par postulat l'incomplétude de l'homme créé, offre à la totalité du peuple d'Israël un grand rendez-vous annuel de bilan moral et spirituel. Le jugement de Dieu signifiant la capacité de se juger en conscience et en vérité devant Dieu. Quant aux justes, qui vivent leur foi en exigence permanente d'accomplissement devant Dieu, leur teshuva, leur repentir, se réalisent au rythme régulier de leur cheminement spirituel. Pour référer à nos grands maîtres, nos grands mystiques, nos saints, nos saintes, on les appelle de différentes manières dans nos traditions, qui eux vivent leur repentir dans leur, presque dans leur quotidienneté. Mais pour la collectivité, par exemple ici du peuple d'Israël, il est important qu'il y ait au moins un jour qui soit consacré à cette prise de conscience. Donc il y aurait en quelque sorte deux niveaux. Une sorte de règle générale, des rendez-vous d'automne, et puis dans une démarche plus personnelle, eh bien, le repentir, le retour vers Dieu se fait au niveau de la conscience qui s'éveille à ce retour. Concrètement, la solennité de Rosh Hashanah tombe le premier Tichri. Et pour augmenter la prise de conscience, la journée a été prolongée par le deux Tichri, c'est-à-dire premier et deux Tichri, en Israël et en dehors d'Israël. Durant ces deux jours, le chauffard, donc corps de bélier, est sonné, petit ou grand chauffard, est sonné le matin par l'officiant et il proclame le nouvel an. Donc cette année, nous sommes en 5780. Mais surtout, comme disait Maïmonide, la tradition, donc pour élever la voix de la communauté vers le ciel et revenir vers Dieu, comme se réveiller, comme le capitaine du bateau dit à Jonas, qu'as-tu à dormir? Réveille-toi, crie vers ton Dieu. Bien entendu, toute une liturgie a été élaborée au fil des siècles qui proclame, alors les grands thèmes de la liturgie de Rosh Hashanah, c'est la royauté de Dieu. Et on insiste beaucoup sur la royauté au point que des prières de l'année sont transformées où on ajoute le nom Melech. Il est Melech HaKadosh. Il n'est pas seulement le Dieu Saint, il est le Roi Saint, par exemple. Également une liturgie qui se réfère à la ligature d'Isaac, puisque nous lisons justement dans le Sefer Torah, dans la Torah, on lit l'épisode de la ligature d'Isaac, auquel d'ailleurs ce Isaac, la communauté tout entière s'identifie pour être sauvée de la mort, on demande à Dieu d'être inscrit dans le livre de la vie. Une liturgie qui évoque aussi la futilité de nos existences et aussi l'importance d'accomplir la volonté de Dieu qui donne un sens à notre existence éphémère. Précisons que jugement n'est pas condamnation, mais éveil de la responsabilité de l'être humain dans l'alliance avec Dieu. Notre monde contemporain s'éveille de plus en plus à l'esprit de Rosh Hashanah. Si nous n'agissons pas de manière responsable au plan économique, écologique et social, notre humanité, à Dieu ne plaise, pourrait basculer vers des formes d'autodestruction, comme nous le constatons, même si, juifs et chrétiens, nous avons foi dans le souffle de Dieu planant sur la surface des eaux. Mais nous constatons aussi, on nous dit qu'il y a des espèces animales qui disparaissent, tous les problèmes d'écologie aujourd'hui que les enfants nous renvoient, ça peut renvoyer à cet esprit aussi de Rosh Hashanah. À ce rituel du chauffard et de la belle liturgie, donc du Nouvel An, s'ajoutent des coutumes pittoresques, notamment le fait de consommer les deux soirs de la fête des mets sucrés ou miellés. Alors notamment la pomme dans le miel, des dattes, et on se souhaite une année douce comme le miel, Shana Metuka Kadvash. Ou bien nous mangeons des grenades, en espérant recevoir autant de bénédictions que de graines dans le fruit. Ce n'est pas la religion, c'est les coutumes. Mais les coutumes culinaires ne constituent peut-être pas l'essence de la foi, mais elles participent de la pérennité d'une communauté. Et je voudrais à cette occasion remercier ma mère et toutes les mamans qui, de génération en génération, ont maintenu les incontournables traditions de la table. Que serions-nous sans nos mamans ? Voilà. La sonalité qui suit Rosh Hashanah est le jour de Kippour, ou en hébreu, dans le texte, Yom HaKippourim. C'est le texte, donc la suite, en fait, de Lévitique 23. Donc l'Éternel parla à Moïse pour dire, donc toujours pour dire, pour transmettre, mais au dixième jour de ce septième mois, ici il y a une restriction, mais, seul, cependant, au dixième jour de ce septième mois sera Yom HaKippourim, le jour des expiations, c'est un pluriel, même si en français on dit Kippour, mais en hébreu on dit Kippourim. Je rappelle que tous les mots qui expriment la bonté, la générosité sont au pluriel. Rachamim, les miséricordes. Chayim, les vies. Pas monsieur, les vies, ou madame, les vies, les existences. Et Kippourim, les expiations. Donc, mais au dixième jour de ce septième mois sera jour des expiations. Ce sera pour vous un appel de sainteté, Mikre Kodesh. Vous humilierez, alors on peut traduire humilier, mortifier, ve'initem. Voilà. Là, ça donne ani, anav, les mêmes racines, ain, nun, humble, pauvre, appauvrir. Voilà. Vous humilierez, mortifierez vos personnes. Vous offrirez un feu, donc ishé, à l'Éternel. Vous ne ferez aucun travail en ce même jour, car c'est un jour d'expiation pour vous, recouvrir. Kippour, ça veut dire couvrir, comme Noé qui recouvre l'arche avec de la poix pour la rendre étanche, devant l'Éternel votre Dieu. Alors là, il y a quelque chose qui est ajouté sur l'importance de ce jour et la gravité de la transgression. Aussi, toute personne, nefesh, toute âme, toute personne, qui ne s'humiliera pas ou ne se mortifiera pas en ce jour, sera retranché de son peuple. Alors, karet, on ne sait pas trop ce que c'est que karet, mais ça voudrait dire que ne pas pratiquer cette fête, ça signifierait qu'on veut rompre avec un fondamental du peuple d'Israël. Il y a peu de commandements où il est dit on serait retranché. Il y a le fait de manger du pain à Pâques, de ne pas pratiquer la circoncision, qui signifierait une volonté de rupture, en fait. Voilà, je ne veux plus faire partie de ce peuple, donc je mange à Kippour. Voilà. Ce n'est pas toujours vrai dans la réalité. Vous avez des juifs très très, très, très juifs qui réclament leur identité, mais le jour de Kippour, ça ne les empêche pas de manger. Même dans certains kibbutz anti-religieux, ils font le gueuleton de Kippour.
et le bal de Kippour. Ils font la religion à l'envers. C'est un peu curieux, mais ça, c'est le rapport du juif avec Dieu. Il faut qu'il y ait une place de Dieu, même si elle est, à contrario, au clair-obscur. Bon. C'est le peuple juif avec Dieu, comment il se gère. Donc, et toute personne qui fera un travail quelconque en ce même jour, je perdrai cette personne, mais avati du milieu de son peuple. Donc, on voit en quelque sorte que dans l'économie du peuple, dans cette gestion du peuple, le fait de trahir ce jour serait comme une volonté de quitter. Donc, mesure pour mesure, si quelqu'un quitte, eh ben, il est quitté. Ne faites donc aucun travail, loi perpétuelle pour vos générations, ben, on pratique encore le Kippour jusqu'à aujourd'hui, dans toutes vos demeures. Donc, voilà, ce sera une cessation totale, vous humilierez vos mortifs aux personnes. Alors, dès le 9 du mois, au soir, depuis un soir jusqu'à l'autre soir, donc ça veut dire que ça commence la veille jusqu'au lendemain. Concrètement, c'est depuis la veille, en effet, coucher du soleil jusqu'à le lendemain, apparition des étoiles, ce qui fait 25 heures. Et puis, il y a un autre texte aussi qui conclut le cérémonial de Kippour, dans un autre passage du Lévitique, qui est antérieur en fait au chapitre 16, qui est Bayom Hazer, c'est un verset qui est lu en boucle, on pourrait dire le jour de Kippour, car en ce jour-là, il sera fait expiation sur vous pour vous purifier de tous vos péchés, vos fautes, maintenant, devant l'Éternel, vous serez purifiés. Donc 10 jours après le Rosh Hashanah, le jour du jugement, la communauté juive vit le jour de Kippour, le Yom HaKippourim, littéralement donc le jour des recouvrements des fautes. Ces 10 jours, entre le premier et le 10e jour, sont nommés tardivement par la tradition les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de repentir. Donc c'est-à-dire une période d'introspection et de bilan. Sur la tradition, si Dieu nous juge de nos égarements et de nos manquements à Rosh Hashanah, à Kippour, il nous pardonne. Si à Rosh Hashanah, il apparaît comme notre roi, Malkenu, à Kippour, il se révèle comme notre père, Avinu. D'ailleurs, nous avons une prière, Rosh Hashanah et Kippour, qui s'appelle Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Cette date du 10 Tishri est-elle prise au hasard? Pourquoi 10 encore? Selon la Torah, après la faute du veau d'or, Moïse remonta sur le mont Sinaï pour aller chercher les secondes tables de l'Alliance, puisqu'il brisa les premières sur le veau d'or, et il redescendit 40 jours plus tard. Alors, selon l'exégèse traditionnelle, Moïse monta le premier du 6e mois, qui serait le premier Elul, et redescendit 40 jours plus tard, ce qui donnerait à ce moment-là le 10 Tishri. Donc, traditionnellement, le 10e jour du 7e mois correspondrait au premier pardon de Dieu à la collectivité d'Israël. Ainsi se justifierait même a posteriori la sonnerie du premier Tishri qui prépare cette grande solennité de Kippour. D'ailleurs, à la fin du jeûne, nous sonnons de nouveau le shofar, comme le premier jour, et en général, les fidèles sortent de leur poche un petit gâteau, un fruit, un petit bonbon, une bouteille d'eau. C'est la semaine chauffard. Maintenant, on peut manger, on peut boire après 25 heures. Et en quelque sorte, la boucle est bouclée. Depuis les temps antiques, Kippour s'est traduite par une journée de jeûne complet, donc complet, c'est-à-dire nourriture et boisson, de 25 heures, donc de la veille au lendemain. Selon l'interprétation, vous humilierez, c'est-à-dire en fait, vous jeûnerez. La Bible ne prône pas l'abstinence, mais il fallait bien un jour de retrait de la vie du monde jusqu'à la vie biologique pour se consacrer totalement à Dieu, à la prière et au repentir. Plus tard, le prophète Isaïe est venu nous donner sens à ce jeûne en transformant une mortification religieuse en une prise de conscience morale, et c'est ce discours tiré du chapitre 58 que nous lisons d'ailleurs, le matin de Kippour. Je vais rappeler rapidement. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper du poing. Vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut. Et cela, un peu comme le chauffard, vous voyez. D'ailleurs, plus haut, il dit, fais entendre ta voix comme un chauffard. Et est-ce là le jeûne qui m'est agréable, un jour où l'homme se mortifie, courber la tête comme un roseau, se coucher sur le silice et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et voici le jeûne que j'aime, rompre les chaînes de l'injustice, dénouer les liens de tous les jours, envoyer libres ceux qui sont opprimés, briser les chaînes de la servitude, partager le pain avec l'affamé, recueillir dans ta maison le malheureux. Quand tu vois un homme nu, le couvrir, ne jamais te dérober à ceux qui sont ta propre chair, ton prochain comme toi-même, c'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi et derrière toi la majesté de Dieu fermera la marche. Dieu marche derrière. Voilà. Donc ce très beau texte à méditer, bien sûr, à essayer d'appliquer dans notre existence, est lu donc le Kippour matin. Et on pourrait dire aussi que les prophètes ont constitué les premiers commentateurs de la Torah. Ils nous évitent, il faut essayer d'éviter, de tomber dans un ritualisme rituel. À l'époque du Temple, le jour de Kippour tournait autour du rituel du grand prêtre, le Kohen Gadol, descendant de Aaron, qui, selon le Lévitique, procédait à un tirage au sort entre deux boucs, Seir. L'un était sacrifié sur l'autel pour l'Éternel, l'Adonai, et l'autre, après la prière du pontife, portait les péchés du peuple dans un lieu désertique nommé Azazel, puissance de Dieu, force de Dieu. Et il s'agit du célèbre bouc émissaire. Les boucs émissaires, ils portent les péchés du peuple. Les Hébreux se sont posés très tôt la question des fautes et des péchés, sorte de fardeau qui pèse sur la conscience, ou sur l'âme, ou sur la mémoire. Freud, plus tard, parlera de la névrose d'angoisse aussi. L'un des attributs divins est justement Nosé Avon. Il porte l'iniquité, la faute et le péché, comme il le révèle à Moïse en Exode 34, verset 7. Donc à travers ce rituel du bouc émissaire, les Hébreux croyaient en une grâce divine qui efface les traces des erreurs passées pour recommencer un nouveau cycle de vie jusqu'au Kippour suivant. De nouveau, les prophètes sont venus offrir leur conception de ce pardon divin, conception qui reste valable même en l'absence du temple. Je citerai par exemple le prophète Ézéchiel, le prophète de l'exil, donc après la destruction du temple, qui dans le chapitre 18 pose deux grands principes que nous mettons souvent en exergue dans le judaïsme libéral. La responsabilité individuelle, qui exclut donc la transmission de la faute du père au fils, ou d'un parent à un enfant. Deuxièmement, la grandeur du repentir qui permet même au délinquant le plus dur de s'amender devant Dieu. Et plus tard, les derniers prophètes reprendront ce thème en proclamant, par exemple, Zacharie 1.3 ou Malachie 3.7, « Revenez vers moi, je reviendrai vers vous. » La conversion de l'homme répond à la conversion de Dieu. Le retour de l'homme répond le retour de Dieu. Les rabbins dans le traité Yoma, traité sur Kippour, seront encore plus pointus en distinguant les fautes religieuses des fautes morales. Si l'on peut concevoir que le Créateur pardonne nos manquements au plan rituel, puisqu'on n'a pas respecté le Shabbat, on n'a pas mangé cachère, on n'a pas fait sa prière, bien que ces sujets pourraient s'entendre en évolution, il est tout aussi concevable que la faute morale appelle une réparation entre les hommes avant de se présenter devant Dieu. À quoi bon demander pardon à Dieu d'avoir volé le portefeuille du voisin si le dit portefeuille n'a pas été rendu à son propriétaire? Comment demander pardon à Dieu si nous ne pardonnons pas ou si nous gardons la rancune dans notre cœur? Aujourd'hui, le culte de Kippour se traduit par un culte liturgique, soit cinq prières. C'est le seul jour où il y a cinq prières. En général, il y a trois prières ou le Shabbat quatre prières, qui évoquent sans cesse la miséricorde divine et qui égrène de longues confessions collectives. Nous sommes coupables, nous avons volé, nous avons médit, nous avons commis l'adultère, nous avons méprisé la veuve et l'orphelin, etc. Je me souviens un jour, mon fils, il avait 7-8 ans, il est à la synagogue, il m'a demandé « Papa, tu as vraiment commis toutes ces fautes ?» Je lui ai répondu que nous devions nous sentir responsables les uns des autres, en évoquant cette image midrashique. Un homme, dans un bateau, fait un trou sous sa place. Tous les passagers accourent affolés, il leur répond « N'ayez aucune crainte, je fais un trou juste sous ma place. » Aujourd'hui, nous prenons aussi vraiment conscience que nous sommes tous sur le même bateau, en espérant qu'on ne sera pas tous dans la même galère. L'essence de Kippour est contenue dans ce verset scandé au cours de la dernière prière, qu'on a répété d'ailleurs les cinq prières, « Car en ce jour-là, il sera fait expiation pour vous, vous serez purifiés de tous vos manquements, de tous vos péchés, devant l'Éternel, vous serez purifiés. » Nous trouvons une définition complémentaire de l'essence de ce jour, dans la liturgie qui mentionne la royauté de Dieu, que nous acceptons pleinement, l'espérance dans un monde sans idolâtrie ou sans idéologie, et l'appel lancé à l'humanité de servir le Dieu un, dans une harmonie universelle, à l'image d'un bouquet de plusieurs fleurs, Agouda Achat, un bouquet de différentes fleurs. Ce thème atteint sa pleine signification lors de la dernière prière qu'on appelle Nehila, fermeture des portes, à travers ces mots simples et profonds. Tu as distingué toi Dieu, tu as distingué l'homme, masculin et féminin, donc nous n'oublions pas, depuis le commencement, tu l'as reconnu pour qu'il se tienne devant toi. Ici, il n'est point besoin d'un approfondissement philosophique pour comprendre que se tenir devant Dieu signifie d'accepter sa volonté divine, son éthique et ses règles de vie. C'est pourquoi cette déclaration est précédée de ce verset de l'Ecclésiaste : la supériorité de l'homme sur l'animal est néant, car tout est vanité. Havel, tout est vanité. Si à l'office du matin, nous lisons le chapitre 58 d'Isaïe, déjà mentionné, l'après-midi, nous lisons les quatre chapitres de Jonas, Yona, qui traitent de la valeur du repentir, qui ne connaît pas de frontières devant l'Éternel, puisque ce sont les Ninivites, donc Assyrie, l'apostrophe Assyrie, qui reviendront vers Dieu. Il faut remarquer que le prophète ne demande jamais une conversion au judaïsme, ni même une proclamation de foi, mais que l'exigence divine s'exprime dans l'abandon de la violence et de la rapine. Il y a à nos yeux, ici, une idée universelle qui peut interpeller tous les hommes, toutes les cultures, toutes les religions, que l'on trouve dans l'esprit du dialogue interreligieux. L'idée révolutionnaire énoncée à la fin du livre, et qui étonne Jonas, s'exprime par la formule finale, ce dernier verset de Jonas, « Et moi, je n'épargnerai pas Ninive, cette grande ville qui renferme plus de 12 myriades d'êtres humains, incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche, et un bétail considérable. » Pourquoi l'homme faute ? Parce qu'il ne sait pas distinguer sa main droite de sa main gauche. Le fauteur est un ignorant. Bien sûr, lutter contre l'injustice, contre toutes les formes de racisme, de négationnisme, lutter pour la paix demeure un devoir pour les croyants, comme pour tout citoyen qui prône la liberté. Pour autant, ce jour de Kippour nous rappelle notre devoir de bien éduquer, de bien transmettre aux générations futures les précieuses valeurs éthiques mentionnées dans nos Bibles. La tradition enseigne qu'à Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour, Dieu pose deux questions à l'homme. Celle qu'il pose à Adam, « Où es-tu ?» à Yéka, et la seconde posée à Caïn, « Où est ton frère ?» et « Evel Achicha, où est Abel ton frère ?» En hébreu, il existe deux mots pour dire « où »,« Efo » et « Aïe ». « Efo » signifie « où » au sens spatial. « Aïe » signifie « où » au sens moral. Bien sûr que Dieu sait où se trouve Adam. Après la faute, il sait tout autant ce qui est arrivé à Abel. Mais il demande à Adam, où es-tu dans ton humanité ? Et à Caïn, où en es-tu dans ta fraternité ? Indépendamment de Rosh Hashanah et Kippour, indépendamment de la communauté juive, ces deux questions peuvent se poser à chacune et chacun de nous, en tout lieu et en tout temps, à nous de répondre en conscience et en vérité à cet appel de notre Père et de notre Roi. Voilà, merci.
Alors merci Philippe, je suis un très mauvais élève, figure-toi, parce que je vais préparer Soukhot. Ben, donc ce sera pour la prochaine fois.
Oui, si je
mais ça me donnera peut-être l'occasion de changer le sujet de la fois prochaine. J'avais pensé la fois prochaine prendre la Transfiguration, qui est une fête chrétienne du 6 août, que nous célébrons le 6 août, et qui... dans lequel on évoque les tentes, voilà, et la Soukhot, vous savez, c'est les cabanes, et ça va être appelé de manière générale la fête des tentes. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai un peu comme sujet, puisque tu as parlé de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Kippour, en particulier de cette période jusqu'à Kippour. Peut-être que je prendrai le carême, puisque c'est plus, à mon avis, un écho qu'on peut trouver dans la tradition chrétienne de ces jours terribles. D'ailleurs, ça pourrait être une question à poser, même si on voit bien le sens que ça peut avoir, pourquoi on appelle ces jours les jours terribles. Simplement, quelques réactions à ce que tu as dit. D'abord, le commentaire que tu fais de Genèse 1 et le début du chapitre 2. Il n'y a pas de fête d'automne dans le christianisme. le mois d'octobre est consacré à la Vierge Marie ou à la prière de la Vierge Marie ou au rosaire. Il est finalisé en quelque sorte par la fête de tous les saints, donc il y a une espèce de perspective morale, on va dire, d'une certaine manière, en tout cas de perfection personnelle. Mais je dirais que la fête de la Toussaint est déjà, elle ouvre sur le dernier mois de l'année pour les chrétiens, le premier mois étant celui de décembre, grosso modo, si on devait parler en année civile, puisque c'est le commencement de l'Avent. Et une nouvelle année liturgique, une nouvelle année chrétienne commence là. Donc il n'y a pas de fête d'automne, mais il y a quelques années, peut-être t'en souviens-tu, le pape François a sorti une encyclique, donc Laudato Si, sur la création, reprenant d'ailleurs Genèse 1, le commentant, et en particulier ce fameux verset, ou ce fameux verbe, dominella, pour justement exclure toute domination qui ne rendrait pas, en tout cas qui abîmerait la création, ne permettrait pas de la mettre en valeur selon le projet de Dieu. Et le pape François proposait d'ailleurs le premier dimanche de septembre comme jour de la création. Alors est-ce que c'est peut-être en écho à Rosh Hashanah et aux fêtes juives, je ne sais pas. Mais enfin voilà, il a choisi ce jour-là, le premier dimanche de septembre comme journée de la création, et proposé aux chrétiens pendant le mois de septembre de réfléchir à cette question de la création. Ces textes de Genèse 1, Genèse 2 sont des textes qui sont un peu fondamentaux. Dans le monde chrétien, on les travaille beaucoup pour précisément élaborer la conception de l'homme, ce qu'on appelle l'anthropologie. Récemment encore, les évêques ont sorti un document qui s'appelle « Qu'est-ce que l'homme ?», reprenant une expression du psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en aies le souci ?» qu'est-ce que l'homme, et s'inspirant en particulier de Genèse 1 ou Genèse 2. Dans les propos de Jésus, Genèse 1, Genèse 2, par exemple, sont cités plus pour définir la position de Jésus par rapport au mariage, puisque, comme on l'a entendu, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa avec cette égalité fondamentale, cette égalité, on pourrait dire, de l'homme et de la femme, et que une phrase que Jésus associe à une deuxième phrase au chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et tous les deux, et s'attachera à sa femme, et tous les deux ne font qu'une seule chair. Voilà, ces deux points, vous voyez, qui permettent à Jésus de définir sa position sur le mariage, et qui supposent donc toute une anthropologie, une conception de l'homme et de la femme, bien évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire de... Alors, le premier mois, j'ai dit que pour les chrétiens, le départ de l'année, c'était donc plutôt le début du mois de décembre, c'est-à-dire l'Avent, c'est Noël, la naissance de Jésus qui finalise un petit peu notre regard. En réalité, il y a ce même jeu qu'il peut y avoir dans le judaïsme entre un premier mois de l'année qui est le mois de Tishri et un premier mois qui est le mois de Nissan avec... Pardon pour l'évocation économique de Nissan. Non, mais Nissan, c'est-à-dire le mois de Pâques, puisqu'en réalité, la fête la plus importante dans le christianisme, ça reste fondamentalement la fête de Pâques. Et donc, à partir de... Alors, il n'y a pas 10 jours, mais il y a 40 jours. 40 jours qui évoquent précisément, soit les 40 jours, fondamentalement les 40 jours que Jésus a passé au désert, mais qui renvoient aux 40 ans que Israël a passé au désert, donc les 40 jours de carême au cours desquels les chrétiens collectivement sont invités précisément à se reconnaître pécheurs et individuellement bien évidemment à convertir ce qui dans leur vie n'est pas accordé au Christ, avec deux grands jours de jeûne. Enfin, le temps du carême est un jour de jeûne dans le sens où tu l'as très bien expliqué, c'est-à-dire Isaïe 56, quel est le jeûne que je préfère, en particulier l'attention aux pauvres, la question de la solidarité entre les personnes. Et il y a quand même deux grands jours de jeûne d'un point de vue, alimentaire, qui sont ce qu'on appelle le mercredi des cendres. Les cendres renvoient à ce... précisément à la terre dont nous sommes issus. On impose les cendres avec cette phrase, enfin c'est une des phrases que l'on peut utiliser, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à la poussière, voilà. Et le carême s'achève avec la semaine sainte et donc la résurrection de Jésus, donc on passe, on pourrait dire, de la poussière, je veux dire relèvement hors de la terre, avec en particulier la résurrection ou le relèvement d'entre les morts que Jésus va connaître pour les chrétiens au jour de Pâques. Donc il y a ce premier jour qui est un jour de jeûne, le mercredi des cendres, et puis le deuxième jour qui est précisément celui du vendredi saint, c'est qui donc on fait mémoire de la mort de Jésus. À propos du jeûne, d'ailleurs, il y a un moment donné dans l'évangile où les pharisiens, ou en tout cas les disciples des pharisiens, viennent interroger Jésus en disant pourquoi nous jeûnons, ainsi que d'ailleurs les disciples de Jean-Baptiste, et tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Voilà. Donc Jean-Baptiste étant, faisant avec les pharisiens, en quelque sorte, une même unité de pratique, mettant en quelque sorte la question Jésus et les pratiques donc qu'il propose à ses propres disciples. Et de fait, dans l'évangile, là encore, Jésus va réorienter ou référer plutôt le jeune chrétien à sa propre disparition. La réponse de Jésus est un peu énigmatique, c'est de l'ordre du proverbe. Est-ce que les invités de la noce jeûnent tandis que l'époux est là ? Voilà, donc il n'y a pas de raison de jeûner quand l'époux est là. Un jour, ils jeûneront lorsque l'époux leur sera enlevé, littéralement arraché. C'est le verbe qui est aireo, qui signifie arraché. Et donc, dans la perspective de l'évangile, ça renvoie à la mort de Jésus. Et donc, ça va devenir la raison pour laquelle, précisément, on jeûne. Et l'occasion, précisément, de faire un bilan personnel et un bilan collectif pour voir les points sur lesquels on peut se convertir. Qu'est-ce que je pourrais relever également de ce que tu as dit? Oui, il y a quelques éléments. Tu cites Maïmonide. Tu as cité Maïmonide, qui est de fait un grand savant juif connu dans la tradition chrétienne, puisqu'il a précédé saint Thomas d'Aquin, par exemple, typiquement. Et saint Thomas d'Aquin, il fait référence assez souvent dans sa somme théologique, sans doute parce que Maïmonide l'a précédé dans la reprise, en quelque sorte, de la philosophie aristotélicienne, et que saint Thomas va s'inspirer de lui, précisément, pour développer ce type de philosophie dans l'Église. De la même manière, je pensais à la prière de Néhila. Alors, j'ai peut-être pas très bien compris quand tu en parlais. Donc, la prière de Néhila, qui est donc la dernière prière de Guipo,
c'est ça. Qui veut dire fermeture. Donc, c'est quand le soleil commence à décliner. Donc, une heure avant la fin du jeûne.
Et tu parlais de l'expression l'homme prévu pour se tenir devant Dieu.
Oui.
Voilà, ça m'a évoqué, peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir, une espèce de proverbe de Saint-Irénée, là encore un père de l'Église, c'est ceux qui ont élaboré, on pourrait dire, la foi de l'Église. Il a vécu au IIe siècle de notre ère, et Saint-Irénée disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Voilà, » La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Il ajoutait aussi « La gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Voilà, donc il y a tout à la fois cet être debout face à Dieu et le voir, précisément le voir face à face et découvrir précisément dans ce regard la correspondance qu'il peut y avoir entre le modèle et l'image qui en est tirée. Voilà, quelques points de réflexion sur ces fêtes de Rosh Hashanah qui pour. Mais peut-être que dans l'Assemblée, il y a des questions.
Je vais peut-être répondre je vais répondre sur deux points, et puis sur les jeûnes en plus. Donc, en effet, aussi dans la tradition, on appelle cette période entre Rosh Hashanah et qui pour, on appelle Yamim Noraim, les jours redoutables, les jours terribles, redoutables. Donc, Nora, qui renvoie à la crainte. Donc c'est les jours de crainte. En fait, je ne voulais pas trop. J'ai bien fait d'ailleurs, parce que si j'avais ajouté Soukhot, c'est-à-dire que dans ce mois de Tishri, il y a deux aspects, je dirais, il y a deux atmosphères psychologiques et spirituelles. La première période, Rosh Hashanah et Kippour, elle est marquée par une sorte de crainte révérentielle de Dieu, qui est considéré comme le juge, donc qui nous inscrit dans le livre. Et du fait de cette introspection, c'est plutôt la dimension de crainte, qui n'est pas la peur, qui n'est pas la trouille, mais qui est la crainte révérentielle du roi devant lequel on se tient. Et donc, il y a comme une espèce de retenue. Mais, par exemple, ça se traduit de façon concrète dans le rituel que un Rosh Chodesh, un Nouméni, nouveau mois, on récite le Hallel, psaume 115 à 118, on appelle ça le Hallel, les louanges à Dieu, on trouve louer le Seigneur car sa bonté est infinie. Voilà. Et le jour de Rosh Hashanah, on ne récite pas le Hallel. Alors, les rabbins expliquent comme ça. Les anges se présentent devant Dieu en disant, mais pourquoi tes enfants, ils ne récitent pas le Hallel ce jour-là, alors que tous les nouveaux mois, il dit, comment pourraient-ils chanter alors que les livres de la vie et de la mort sont ouverts? Donc, c'est ça, cette notion de jour redoutable, c'est comme une espèce de retenue. Alors que la fête de Sukkot, par la prochaine fois, au contraire, c'est une fête d'expansion, hein, extraverti par rapport à introverti, où là, on va exprimer sa joie, et en fait, ça correspond à deux, dans les psaumes, servez Dieu dans la crainte, et aussi servez Dieu dans la joie. Donc il y a des temps où on le sert plutôt dans la crainte, et d'autres, on le sert dans la joie. Alors, maintenant, ce qui concerne, on pourrait penser par rapport aux évangiles, parce que les évangiles aussi sont très intéressants pour avoir une connaissance du judaïsme de l'époque de Jésus. Mais je rappelle à chaque fois que les évangiles ont été écrits avant la Mishnah. La Mishnah, le plus tardivement, c'est quoi les évangiles 80-90?
Oui, 90 pour Saint Jean, le premier datant du milieu des années 60.
Voilà.
Alors, quand je dis, je donne ces dates, il s'agit de l'édition écrite des évangiles. Ça ne veut pas dire qu'avant, les évangiles n'aient pas existé en bonne partie de manière orale. Mais et puis ces dates-là correspondent, enfin, si c'est le milieu des années 60, c'est pas en raison du drame de 70, c'est-à-dire la chute du temple, c'est un autre drame, c'est la disparition des premiers les premières disparitions des témoins, de ceux qui ont été les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus. Au début des années 60, vous avez Pierre et Paul qui disparaissent, et ça va être le point de départ, le signal de mettre par écrit, vous voyez, les documents, ces traditions qui ne pourront être désormais vérifiées, validées que par un écrit, puisque les témoins directs auront disparu.
Donc la Mishnah, c'est la première écriture de la tradition orale. Pareil, il y a des traditions orales qui circulent. Peut-être qu'on peut les faire remonter sans doute de l'époque de Ezra. Historiquement, on peut le montrer. Mais la Mishnah est écrite entre 200 et 220. Donc vous voyez, il y a presque un siècle et demi qui sont écoulés. Et donc c'est intéressant aussi de se référer aux évangiles, parce qu'ils nous donnent, en passant, mais quand même historiquement c'est intéressant, ça veut dire qu'il y avait au sein de la communauté juive, on peut dire même baptiste aussi, c'est la communauté juive, il y avait une pratique du jeûne. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeûne? J'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'esprit de la Torah, hein, qu'il n'y a pas proposé un modèle d'abstinence de jeûne régulièrement, hormis le jeûne de Kippour. Alors, ensuite, en effet, on a trouvé dans Zacharie, par exemple, les jeûnes, mais qui sont liés à la destruction du temple, et donc à cause du traumatisme, qu'on va ajouter des jeûnes, d'ailleurs, que certains encore pratiquent aujourd'hui, notamment le 9 Av, qui rappelle la destruction du premier et du deuxième temple. Mais il y avait sans doute des jeûnes ajoutés. Alors ça pouvait être soit pour la pluie, donc il y a le traité Ta'anit, qui est traité dans la Mishnah, qui traite des jeûnes à cause du manque de pluie. Donc on jeûnait pour avoir la pluie. Mais il y avait sans doute aussi des jeûnes un peu à caractère religieux, comme une espèce de démarche spirituelle. Par exemple, jeûner le lundi, le jeudi. J'ai connu jusqu'à des personnes assez âgées, mais je me souviens d'une femme qui était d'Algérie, donc qui était venue en France, et qui, depuis son mariage, jeûnait le lundi, le jeudi, parce que son père jeûnait. Donc ça devait être des traditions très anciennes qui faisaient partie de la vie. Il y a même des jeûnes, par exemple, d'une semaine. Ça peut arriver, des jeûnes d'une semaine, on mangeait le Shabbat. Quand on parle dans certaines familles, enfin, je connais plus le monde séfarade, on nous dit, oui, tel rabbin, il faisait comme ça. Donc, ce ne sont pas des jeûnes qui sont imposés à la collectivité. Pour la collectivité, c'est le jeûne de Kippour, mais il pouvait avoir dans des démarches personnelles, que d'ailleurs Jésus pouvait des fois dénoncer par une forme un peu de matuveux, en quelque sorte, mais il pouvait avoir ces formes de rites qu'on s'ajoutait, et notamment des jeûnes. Donc ça veut dire qu'à l'époque du deuxième temple, il y avait une pratique du jeûne de certaines personnes qui ajoutaient aux règles religieuses, déjà, des jeûnes. Mais, on va dire, L'exception ne fait jamais la règle. Il y a l'exception à la règle, mais l'exception ne fait pas la règle. La règle, c'est un jeûne pour la communauté, c'est le jeûne de Kippour. Et si on doit, en tout cas dans le judaïsme libéral, si on ajoute un deuxième jeûne, c'est le jeûne du 9 Av, mais les autres jeûnes ne sont pas pratiqués. Et même dans le rituel, on dit que si on doit jeûner pour telle ou telle raison, mais qu'on est fatigué, qu'on a mal à la tête, etc., donc on est vraiment plus souple.
Donc, dans l'Évangile, par exemple, il y a cette opposition entre le pharisien et le républicain.
Le publicain.
Je sais pas pourquoi. Le pharisien et le républicain. Voilà. Ah, où le pharisien dit je jeûne deux fois la semaine.
Ah oui,
voilà,
ah
exactement.
Oui. Ah bon, d'accord.
Et le publicain, il est en train de se frapper la poitrine dans le sens que tu exprimes, c'est-à-dire la reconnaissance de ses propres fautes et la conscience du besoin qu'il a d'être pardonné.
Ah oui. Oui, c'est-à-dire on jeûnait pas le lundi et le jeudi. Je ne sais pas si cette tradition, c'était le jour de la sortie de la Torah. Donc on jeûnait le lundi et le jeudi. Voilà, mais ces pratiques n'existent plus. Peut-être chez certains mystiques, mais bon, c'est pas trop. Mais sinon, c'est pas pratique. Voilà par rapport à tes deux remarques.
Et puis, sinon, pour terminer sur la trompette, il y a bien un passage dans le Nouveau Testament à propos de la trompette. Hein, c'est Zichron Teruah. D'ailleurs, Teruah, tu avais évoqué le Décalogue. Tu as évoqué Genèse 22 également. Il y a une Teruah qui est très très connue, c'est celle des trompettes de Jéricho.
Oui, c'est vrai.
La chute de ce monde fondé sur d'autres principes précisément que ceux du Décalogue. Et ça fait pas partie.
C'est-à-dire, comme j'essaie de suivre la chronologie, je dirais qu'est-ce que serait en mémoire avant le Lévitique.
D'accord.
Donc ça serait soit le don de la Torah, soit, mais en effet, il y a d'autres. Il y a aussi le grand chauffard du rassemblement des exilés, etc.
Là, je lis juste un passage que vous avez dans la première lettre aux Corinthiens de saint Paul. Hein, mais là, ici, le son de la trompette, c'est utilisé pour le réveil de tous les morts, avec un jugement de Dieu. Voilà. Ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui ont fait le mal pour une deuxième mort, on pourrait dire d'une certaine manière.
Ah oui.
En un instant, d'un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, pour ceux qui ont fait précisément le bien.
Dans l'Apocalypse, on ne mentionne pas des trompettes.
Aussi, et justement ce jugement ultime, hein, qui peut aboutir pour les uns à la résurrection et pour les autres
à la deuxième mort. D'accord. Alors, c'est pas forcément un chauffard, ça peut être une trompette.
Voilà,
c'est
oui, mais c'est une seule trompette, hein. C'est pas au pluriel.
C'est pas au pluriel, oui, d'accord. Oui, d'accord. Voilà, si vous avez des questions.
Est-ce que vous avez des questions sur Rosh Hashanah et Yom Kippour?
Merci, ma question est venue vers M. Rabin. De compréhension. Vous avez insisté au point de départ sur la distinction entre faire et créer et le fait que l'homme fait créer des parfaits et donc frappé d'une imperfection tendue entre sa générosité et la limitation, l'égoïsme qui pratique. J'ai compris ça au début, cette ambiguïté qui frappe l'homme qui n'est pas achevé. Ma question, c'est comment est-ce qu'on passe de cette lecture anthropologique de la personne de la Genèse à l'événement, au rendez-vous du premier jour de Tishri. Pourquoi est-ce ce jour-là que l'on veut particulièrement faire un bilan moral? Est-ce que ça a un rapport avec la séquence de l'Exode? Est-ce que c'est ce jour-là que particulièrement cette ambiguïté qu'a la condition humaine est soulignée en vue de ce bilan moral et de ce réveil de conscience?
D'accord. Oui, mais je vais reprendre un petit peu. Il y a plusieurs réponses. Parce que ça tourne autour de ce dixième jour du septième mois. Il est un peu curieux ce dixième jour du septième mois. Comment le justifier? C'est-à-dire le jour de Kippour, ce qu'on va appeler le jour de Kippour, c'est le dixième jour du septième mois, vous ferez mortification, vous jeûnerez, pour faire simple. C'est cette question qui interpelle la tradition juive. C'est pourquoi ce dixième jour, il est mis en lien avec le premier pardon de Dieu à Israël, qui est le pardon de la faute du veau d'or. C'est quand vous relisez le texte, Dieu veut supprimer le peuple d'Israël. Il dit, finalement, il n'est pas prêt à devenir mon royaume de prêtres, comme c'est mentionné dans le chapitre 19, vous serez pour moi une royauté. Ils ne sont pas prêts à porter le message monothéiste, puisque dès l'instant où Moïse s'absente, voilà, ils reviennent en Égypte, hein, reviennent au culte, donc du veau, petit du bœuf, ou de la vache sacrée. Et c'est Moïse qui intervient, hein, pour défendre, en disant, si tu effaces le peuple d'Israël, tu m'effaces moi aussi. Autrement dit, tu te trouves un autre peuple, tu te retrouves un Abraham, un Isaac, Jacob, et tu recommences l'histoire. Bon, il y a une certaine chutzpa, comme on dit en hébreu, un certain toupet. Et Dieu dit non, je pardonne comme selon ta parole. Et si on considère que Moïse est monté une deuxième fois, enfin d'après le texte, est monté une deuxième fois chercher les deuxièmes tables de la loi, qui signifiaient finalement le pardon de Dieu, eh bien le jour où il descend, ça serait ce dixième jour du septième mois. C'est pourquoi ce jour, il semble important. Encore une fois, le texte est énigmatique. Comme dit Maïmonide, c'est un décret du roi. Mais on essaye de voir pourquoi ce dixième jour. Donc, si ça tourne autour du premier pardon, à ce moment-là, le premier jour de ce septième mois va devenir le jour de préparation à ce pardon. Donc, on reçoit le pardon de Dieu, mais en même temps, on se prépare. Et j'ai rajouté tout à l'heure que le septième mois, c'est-à-dire le chiffre 7, renvoie toujours à un temps de bilan. Le 7, c'est le bilan. C'est comme si Dieu, si vous voulez, crée en 6 jours, et puis après il voit, c'est très bien, et qu'est-ce qu'il fait après? Et bien ensuite, il fait le Shabbat. Hein, c'est-à-dire, il passe dans un autre moment qui va en quelque sorte couronner, hein, le couronnement de la création, c'est le Shabbat de Dieu. Et c'est Dieu, et c'est la première fois, par exemple, qu'apparaît le verbe sanctifier. Il n'est pas dit que le monde a été sanctifié, mais le Shabbat, oui, a été sanctifié. Donc ce septième jour, ce chiffre 7, qui renvoie à ce temps de bilan, selon cette analyse symbolique, numérologique, et au fait que le dixième jour du septième mois pourrait renvoyer, ça reste disons cohérent avec la lecture, au pardon de Dieu. Alors, cette période, depuis le premier jour du septième mois jusqu'au dixième jour, va renvoyer à ce temps de bilan, d'introspection. Et la tradition va dire, le premier jour du septième mois, c'est Rosh Hashanah. Et 10 jours après ces 10 jours de repentir, de pénitence, eh bien, on se retrouve face à Dieu, le Dieu qui pardonne. Vous voyez, c'est plus clair? Voilà.
On pourrait presque jouer sur les mots, hein, puisque... Pour passer du faire au parfait, ou parfait, il faut pardonner.
Oui.
Voilà, le pardon est une condition, on pourrait dire, presque nécessaire pour un aboutissement, pour aboutir à la perfection de la création. Est-ce que
Non, c'est ça. Et en plus, alors, tout le chapitre, alors, j'ai pas travaillé le chapitre 16, parce que bon, c'est, il est pas, il faudrait l'étudier pour lui-même, pour une étude, c'est tout le rituel de Kippour. Qui tourne, alors c'était très différent aujourd'hui, c'est un office, hein, c'est-à-dire, certes, il y a le rôle de l'officiant, il y a la liturgie, il y a les airs, mais c'est collectif. Quand on lit le texte de la Torah, donc à l'époque du deuxième temple, c'était pas aussi participatif. Tout tournait autour de la personne du grand prêtre, vous voyez. Donc j'ai pas lu ce texte, mais en effet, on voit qu'il y a cette importance du pardon. Car en ce jour, il sera fait expiation. Donc c'est comme une donnée, même dans le sens de l'histoire. L'histoire ne peut avancer que s'il y a le pardon de Dieu. Ça la participe comme l'élan vital du commencement. Et à chaque fois, il y a ce pardon qui permet justement d'avancer. Le pardon aussi se conjugue avec l'espérance d'un monde réalisé, abouti. Donc oui, ça fait partie du rythme de la vie religieuse.
Toujours dans la même idée, tu disais tout à l'heure, il me semble que c'est dans le temps du Shabbat de Dieu que le parachèvement,
oui,
se fait, ce qui est d'ailleurs une position de Jésus dans l'évangile de Jean. Pas nécessairement la position qu'il a dans les autres évangiles, Mais par exemple, le Shabbat est plus comme lui, perçu par lui dans l'évangile de Jean comme l'achèvement de la création. Et donc, mon Père travaille et je travaille avec lui parce qu'on lui reproche précisément d'intervenir principalement le jour du Shabbat pour un certain nombre de guérisons. Je pense par exemple à la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda, qui va être l'occasion pour Jésus d'exprimer la conception qu'il a du Shabbat comme achèvement de la création et non pas comme un jour où on ne fait rien, où on s'abstient de faire quelque chose.
Ah oui, 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 c'est intéressant ça. Faut voir, tu me donneras la référence.
Jean 5.
Ah, Jean 5. Oui, en même temps, le Shabbat de Dieu inaugure l'histoire de l'homme. Parce que tant que dans le premier chapitre, même s'il est fait mention de l'homme, l'homme n'est pas acteur. Il est récipiendaire de la bénédiction. Hein? Par exemple, il n'y a aucun interdit. Tu manges de tout. C'est comme les animaux. Donc, en quelque sorte, dans le premier chapitre, c'est plutôt l'homme de nature. Hein? Mais c'est dans le deuxième chapitre que là, c'est un texte un peu différent, c'est un texte yaviste, éloïste, on discute là-dessus, mais là, l'homme est responsabilisé. Alors dans le premier, il reçoit la bénédiction de Dieu. Et donc on peut dire le Shabbat inaugure l'histoire de l'homme. Et bien sûr dans la conception biblique, qui est la nôtre, c'est-à-dire de l'alliance avec Dieu. Hein, ce n'est pas un Dieu qui abandonne son monde et qui dit « Voilà, j'ai fait mon travail et je vous laisse vous débrouiller. » C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure « Mais le souffle de Dieu planant sur la surface des eaux. Hein, » C'est-à-dire que le souffle ou l'esprit de Dieu est toujours là. Comme en plus en hébreu, c'est « Mer Rachefet », c'est un participe présent, c'est une présence permanente. C'est, comme on dit dans la tradition juive, on appelle ça la « Shekhina ». La Shekhina, la présence permanente de Dieu. Voilà. Merci.
Très bien. Donc la prochaine fois, comme projet comme thème de la soirée, ce sera plutôt, je pense alors à ce moment-là, plutôt le carême et comment la question du Kippour est reprise dans le Nouveau Testament et appliquée à la mort de Jésus en croix. D'accord. Plutôt que la transfiguration. Alors je ne sais pas quand c'est, mais je peux vous dire le 3 février. 3 février. Voilà. 3 février, je prendrai la fête des tentes une autre fois. Enfin, c'est-à-dire la question qui m'habite un peu, c'est pourquoi les chrétiens n'ont pas repris la fête des tentes alors qu'ils ont pris les deux autres grandes fêtes de pèlerinage, les trois fêtes majeures qui sont donc Pessah, Shavuot et Sukkot n'ont été reprises que dans Pessah et Shavuot, et Sukkot en revanche est passé un petit peu à l'as, et c'était une question que je voulais traiter. Voilà, mais ce sera pour une autre fois quand on aura fait son code.
D'accord. Bon, merci et bonne année.
Bonne année.